La dernière fois, nous étions restés sur l'aspect thérapeutique, psychothérapique, de l'intervention de Dieu vis-à-vis de l'homme et de la femme. Quand on dit psychothérapie, il faut voir ça au sens étymologique, c'est la restauration de l'esprit. Et quand nous lisons, nous avons lu ce texte, quand nous le lisons seul, inévitablement nous nous mettons à la place de l'homme et de la femme dans cet état de désarroi où ils se sont trouvés probablement quand ils ont vu brusquement que leur relation antérieure avec Dieu était coupée, était détruite, et qu'il s'instaurait un nouvel ordre de choses qu'ils ne connaissaient pas, et dans lequel ils se découvraient nus. Donc Adam et Ève, on ne dit pas Adam et Ève, puisqu'ils se donnent un nom après, c'est important, c'est la découverte d'une identité, ils se découvrent nus et plongés dans l'angoisse, qui s'appelle la peur. J'ouvre une petite parenthèse, la peur a plusieurs niveaux et porte plusieurs noms. Quand elle se déroule au niveau le plus profond, le plus primitif, celui du narcissisme, ça s'appelle la honte, la peur d'être vu nu. Et c'est ce qui se passe chez Adam et Ève, puisqu'ils se cachent et ils couvrent leur sexe après avoir déplacé leur transgression de type moral sur leur corps. Et ça, on voit comment on passe de l'un à l'autre, du psychique au corps. Et hier, quand on a abordé le problème de l'homosexualité, Théo a posé le problème de la relation au corps. Et effectivement, dans tous les problèmes d'ordre éthique, il y a aussi une relation au corps. Et nous verrons dans la dernière séance sur la transformation des relations après la conversion, nous verrons qu'il y a aussi une transformation de la relation au corps. Aujourd'hui, notre réflexion porte sur les chapitres 3 et 4. En particulier les chapitres 3 de 8 à 24 et le chapitre 4. Ce serait une lecture un peu longue, nous nous référerons à certains passages, mais je pense que vous connaissez ces passages et que vous les avez certainement lus si vous avez eu ce petit papier qui a été distribué. Ce sur quoi nous nous arrêterons aujourd'hui, ce sont, comme c'est marqué, l'apparition de l'angoisse ou de la peur et les processus de mauvaise foi comme moyen de protection de soi, vis-à-vis de soi-même. Les différents aspects de la culpabilité, consciente et inconsciente, et les diverses façons de la traiter. Et ce qu'on appelle en psychologie psychanalytique, l'étude des mécanismes de défense. Chez Adam, Ève, Abel, Caïn et ses descendants. Nous avons vu que, d'une part, c'était la conclusion de la dernière séance, que l'intervention de Dieu pouvait être vue et devait être vue dans un aspect de restauration, et non pas sous un aspect de condamnation et de destruction. Et effectivement, traditionnellement, on voit cet aspect de la Genèse comme l'apparition d'un Dieu vengeur et non d'un fidèle créateur, comme nous voyons dans l'épître de Pierre, ou d'un père. Et il y a des raisons à cela. C'est que avant que nous soyons proches de Dieu, nous ne le connaissons que comme ça. Nous sommes exactement comme Jacob quand il a rencontré Dieu pour la première fois. À Bethel, il a dit que ce lieu-ci est terrible. Dieu était là. Et je ne le savais pas. Un homme dans son état naturel a toujours peur de Dieu, de sa toute-puissance, en face de sa nudité et de sa fragilité. Et sa fragilité et sa nudité, qu'on pourra appeler son noyau narcissique, lui apparaissent toujours comme une possibilité de courir un danger grave, celui d'être détruit. Nous avons vu ensuite que la transgression revêtait deux aspects. Un aspect côté Dieu et un aspect côté homme. Et c'est à cela, à ces deux aspects, que correspondait le premier sacrifice qui était le vêtement de peau. Pour qu'un vêtement de peau puisse se fabriquer, il faut que le sang soit versé. Et là, nous voyons intervenir la mort propitiatoire parce qu'un animal était mort, Adam avait le témoignage que lui ne mourrait pas. Il avait un substitut. C'est l'aspect propitiation. Donc le côté de Dieu était assuré. Il pouvait continuer à parler à l'homme, à le voir, parce que le sang était intervenu, la mort était intervenue, et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est intervenue de façon provisoire, parce que tous les sacrifices de l'ancienne alliance, les sacrifices mosaïques, sont un phénomène qui remémore le péché jusqu'au vrai sacrifice qui, lui, l'efface. Donc le côté de Dieu est réglé, mais le côté de la culpabilité, c'est-à-dire la façon dont l'homme vit cette nouvelle situation, dont il se sait en fin de compte être l'agent, et c'est là où la culpabilité intervient, c'est qu'il sait qu'il a fait ça. Il sait qu'il est à l'origine, que lui, en tant que personne, est à l'origine du phénomène. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une blessure narcissique, de voir qu'il a été incapable de contrôler une situation. Quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas faire, que vous prenez simplement ce qu'on appelle une gaffe sur le plan social, la gaffe vous importe peu en elle-même, mais ce que nous trouvons extrêmement désagréable, c'est d'imaginer que nous avons été capables de la faire, que nous, en tant que personne, nous n'avons pas été assez habiles, assez forts pour contrôler la situation, en sorte que nous sommes mis dans une certaine situation ridicule. Et ça s'appelle une blessure narcissique, et vous avez déjà l'embryon d'un sentiment de culpabilité. On a fait quelque chose et on sait qu'on en est l'auteur. Et l'homme sait, il n'a pas pu effacer, il est bien qu'à travers certains mécanismes que nous allons étudier, il a essayé de se débarrasser de ce savoir que lui avait fait et était à l'origine. Il a besoin que cette culpabilité soit couverte. Elle est couverte au sens propre, puisque Dieu la traite au niveau où il l'avait placée, c'est-à-dire au niveau du sexe, au niveau qui l'angoissait le plus, et au niveau qui lui rappelait le plus. Donc vous avez ce double aspect de la culpabilité, et ce double aspect du sacrifice, et qui couvre à la fois le côté vis-à-vis de Dieu et le côté vis-à-vis de l'homme. Nous avons besoin, nous, en tant qu'homme pécheur qui le savons, devant Dieu après la conversion, nous savons que nous avons besoin d'une propitiation pour nos péchés. Nous avons besoin que notre péché soit couvert. On emploie le mot couvert. Et il est aussi, la même métaphore est utilisée, ayant revêtu Christ. Il nous couvre. Il nous couvre à nos yeux et aux yeux des autres. Et ça aussi, c'est l'origine, le noyau de cette parole que nous avons, cette exhortation à nous aimer les uns les autres, parce qu'il est dit, tu dois aimer le frère pour lequel Christ est mort. Nous voyons dans l'autre l'habit que Dieu a mis sur lui. Et nous l'aimons parce que Dieu l'a aimé, mais nous voyons en lui Jésus-Christ. Nous voyons donc aussi sa culpabilité couverte comme la nôtre est couverte. Donc nous venons de voir le rôle substitutif du sacrifice et le rôle de couverture. Si l'affaire s'est bien opérée pour l'homme et la femme, pour Adam et Ève, les choses ne vont pas se passer aussi bien pour Cain. Cain et Abel ont eu la même éducation. Mais ils ne sont pas nés au même moment. Il y a l'aîné et le second. Alors là, je vous suggérerais quelques hypothèses quant à leur éducation. Vous n'êtes pas obligé de les admettre. Mais enfin, ce sont des hypothèses qui sont corroborées par la clinique. Quand vous recevez des enfants en dispensaire, nous avons souvent le même discours que Ève a tenu vis-à-vis de Cain. Et le voici. Quand Ève a eu son premier fils, elle a dit « J'ai acquis un homme avec l'Éternel ». Et dans les passages précédents, il est écrit « Dieu avait dit à la femme « Ton désir sera tourné vers ton mari et il dominera sur toi ». Ça voulait dire « Tu ne pourras pas opérer seul ». Et elle répond, c'est la réponse si on peut dire entre guillemets du berger à la bergère, « J'ai acquis un homme avec l'Éternel ». Sous-entendu, c'est mon hypothèse, Adam n'y est pour rien, je l'ai fait toute seule. Et quand vous avez des enfants difficiles qui viennent vous voir en consultation, en général ils sont amenés par la mère, si c'est la mère qui tient la première place, quelquefois c'est le père qui l'amène et c'est encore plus mauvais signe. Et la mère commence par vous raconter l'anamnèse, toute l'histoire de l'enfant, tous ses troubles. Enfin, l'histoire, on la laisse parler de façon libre. Et au bout d'une demi-heure d'épanchement, vous dites, mais c'est curieux, madame, vous ne parlez pas de votre mari. Alors on dit, oh, vous savez, il compte si peu. Effectivement, on sent très bien que le père n'a pas été dans le discours de la mère. Elle sait très bien comment il a été fait, bien sûr. Il a fallu qu'elle en passe par là. Mais en fait, il est nié. Il est nié dans son discours, et il est nié dans sa pensée, et il est nié ou effacé dans sa relation avec l'enfant. En sorte que l'enfant a de la difficulté à rencontrer la loi du père pour la bonne raison que la mère n'y est pas soumise. Elle a refusé cette loi. C'est une loi naturelle, on pourrait dire, puisque nous la connaissons de la Bible, mais c'est une loi aussi psychologique. Et Lacan, un psychanalyste connu dont je ne partage pas toutes les idées, parle de la forclusion du nom du père. Il y a un effacement du nom du père. Et on sait que la loi qui passe par en psychologie, qui passe par le nom du père, est organisatrice du savoir, organisatrice de l'espace-temps. Et c'est pour ça qu'on envoie les enfants mal latéralisés en psychothérapie, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la loi fondamentale et qui a été gommé. Donc nous voyons le même processus, c'est d'ailleurs étonnant, c'est parce que je connaissais un peu la clinique que cette parole d'Ève m'a frappé comme étant significative. Et effectivement, nous voyons qu'un enfant dont Ève était très fière, la chose qui nous est dite au chapitre 4, Cain était un... Abel paissait le menu bétail et Cain labourait la terre. À cette époque, c'était quelque chose d'original de labourer la terre, parce que c'était déjà plus difficile. Ça nécessitait dans l'histoire des civilisations toute une élaboration, toute une évolution. Et Cain, c'était un homme qui faisait vraiment quelque chose. Il ne se contentait pas de suivre des troupeaux et de prendre les choses comme elles venaient. Il transformait la nature déjà. Et à un certain moment, nous voyons Cain et Abel s'approcher de l'Éternel et offrir un sacrifice. On peut dire que, d'une certaine façon, Cain et Abel avaient eu la même éducation. Autrement dit, ils savaient l'histoire de leurs parents, ils savaient ce que représentait l'angoisse de la mort, l'angoisse de la fragilité et la restauration que Dieu leur avait proposée à travers le travail, la punition, et le sacrifice, et en particulier le sacrifice, ça, ils le savaient, l'un comme l'autre. Or, il y en a un qui accepte cet enseignement comme ayant un sens, c'est Abel. Or, Cain, lui, met sa main à cet enseignement et le transforme. Et lui va offrir du fruit de la terre, du fruit de son travail. On peut faire encore des hypothèses sur l'attitude de Cain. C'était tellement plus simple de prendre aussi un sacrifice, puisque des animaux, on en trouve facilement, on n'a pas besoin de les cultiver, on les élève. Et là, la clinique nous aide encore. Nous voyons que Cain ne peut pas porter sa main sur une bête pour la tuer. Et on appellerait ça en psychologie un refoulement de l'agressivité. Il ne peut pas assumer une agressivité naturelle. On pourrait aller plus loin, on pourrait penser que Cain était végétarien pour ça. Et on se demande quelquefois, quand les gens sont végétariens, s'ils n'ont pas derrière ça, il n'y a pas une négation de la mort, et derrière la négation de la mort, la négation de leur propre agressivité, ou la négation de leur propre capacité de tuer. Or, l'histoire de la Bible nous montre que péché, c'est tuer. Le premier péché a été cette métaphore que Nathan tend à David. Il a tendu sa main vers la seule brebis, l'unique brebis de l'homme pauvre, et il l'a tuée. Et le jour où Ève a tendu sa main vers le fruit, elle a, dans une certaine mesure, pris le fils dans le sein du Père, et c'était déjà le sacrifice. C'était péché, c'est aussi tuer. Et Dieu ne pouvait sortir cette situation que par le sacrifice de son Fils. Et quand on dit que le salut est gratuit, il est gratuit, mais à quel prix? Il faut penser que tout péché a une force égale, une force de meurtre. C'est précisément ce jeu avec la mort que Caïn réfute, que Caïn n'accepte pas. Et vous avez ce premier processus de refoulement de l'agressivité, de cette possibilité, cette potentialité et cette nécessité même, puisque vous avez cette même ambivalence, de tuer. Alors, chose étrange, Caïn qui ne peut pas tuer une bête va tuer son frère. Tout le monde a cette expérience, cette vision, des gens qui ne peuvent pas faire du mal à un petit animal, mais qui sont capables de tuer des hommes. Et Caïn est dans cette situation-là. Vous savez donc, dans cette première attitude de Caïn, la négation de la mort pour lui n'existe pas, du moment qu'il ne la commet pas, elle n'existe pas. C'est une pensée magique. Une négation de la mort, une négation de sa capacité de tuer. Ensuite, nous voyons que Caïn, de ce fait-là, est incapable d'affronter l'échec. Dès que Caïn éprouve une contradiction, que son système bascule, il est déprimé. Il vit ça comme une perte irréparable. Et il lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Vous avez à la fois cette réapparition, cette résurgence de la colère et cette apparition de la dépression. Et pour Caïn, son noyau narcissique, si on peut dire, entre guillemets, est tellement fragile que toute contradiction entraîne la dépression et la violence et l'irritation. Et pourtant, Dieu le prend encore à un niveau psychothérapique. Il lui dit, pourquoi es-tu irrité? C'est une question qui veut dire, incidemment, pour les gens qui s'adonnent à la psychiatrie, il ne faut jamais dire aux gens, tu fais telle et telle chose, on dit très poliment, tiens, c'est curieux que vous fassiez ça, ou c'est curieux que vous disiez ça, que vous mettez le doigt sur une contradiction et qui est cachée au niveau conscient ou préconscient. Et Dieu dit la même chose, dit, pourquoi? Pourquoi es-tu irrité? Sous-entendu, as-tu vraiment besoin de te mettre en colère? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Il lui donne donc la chance de répondre oui ou non. Donc de répondre non. Il lui dit, si tu fais bien, ne seras-tu pas reçu ou accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Le mot péché en hébreu veut dire à la fois l'acte, et l'animal qui est offert pour l'acte. C'est un mot double, qui a un sens double. Il lui donne d'une part la possibilité de réfléchir, de porter un jugement sur son comportement, et aussi il lui donne une indication sur la façon de procéder pour en sortir. Et il lui dit, et là c'est très psychothérapique, bien sûr, son désir sera tourné vers toi, et toi, tu domineras pour lui. C'est-à-dire, tu es capable de dominer ta colère, tu es capable de faire quelque chose. Donc, tu n'es pas si fragile que tu en as peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu es capable de faire quelque chose. C'est une restauration de sa personne. Et évidemment, il y a certains cas où il faut diminuer plutôt au niveau psychothérapique les entreprises des gens, disent vous exagérez un peu, vous croyez que vous êtes capable de tout faire. Et à d'autres, au contraire, au moment de la dépression, il faut les rassurer, leur dire vous êtes capable de faire quelque chose. C'est ce que Dieu avait fait pour Adam, c'est ce qu'il avait fait pour Ève. Au premier, il avait dit tu es capable de travailler, et au deuxième, il dit tu peux avoir des enfants. Et à Caïn, il lui dit, et toi, tu domineras, tu es capable de dominer toute cette situation. Et il le touche, ce mot résume d'ailleurs toute sa problématique, qui était celui de dominer et d'être dominé. Pour ceux qui sont intéressés par cette terminologie, c'est la dialectique du paranoïaque. Et effectivement, Caïn, jusqu'à un certain point, peut être classé dans cette catégorie. Et nous voyons que Caïn entreprend une part de la démarche et il parle à Abel, son frère. Mais très rapidement, le dialogue est coupé. Il ne lui parle plus et il passe à l'acte. Un des problèmes, si vous voulez, de la thérapie ou de l'évolution de la personne, c'est la continuité du discours et l'arrêt du discours. Quand quelqu'un cesse de parler et cesse de penser, il peut passer à l'acte. Autrement dit, les choses qui se déroulaient à un niveau conscient passent brusquement à un niveau inconscient, sont pris par le champ de la violence et vous avez la destruction. Et l'art de la psychothérapie, c'est justement de maintenir les choses inconscientes à un niveau conscient, à un niveau du discours. Là, je m'égare un peu, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez l'importance de la prière. Ce qui est agi ou ce qui est confusément senti, il est important de le verbaliser pour en prendre conscience et pour pouvoir le manier utilement devant Dieu. Et tout ce qui n'est pas manié à ce niveau-là, au niveau du discours, tout ce qui reste inconscient, d'une part c'est quelque chose de dangereux et c'est quelque chose d'inutilisable pour la croissance. Non, nous voyons Caïn procéder au meurtre de son frère. Dans le meurtre de son frère, c'est l'élimination, plutôt que de changer, c'est l'attitude de beaucoup de gens, ils préféreraient changer le monde à l'extérieur d'eux. La présence de Caïn étant une accusation, plutôt de changer son système, ils préfèrent éliminer toutes les traces des choses qui le bouleversent. Et vous avez beaucoup de gens qui sont comme ça, plutôt que de changer eux-mêmes, ils veulent changer les autres, changer les circonstances, changer leur famille, changer l'Église. C'est pas eux qui veulent changer, c'est les autres. Et là, Caïn va jusqu'à l'extrême, non seulement il veut changer la situation, mais il veut éliminer toute trace de contradiction en tuant Abel. Et nous voyons une suite de conséquences et qui apparaissent encore sous un certain aspect comme une intervention vengeresse de la part de Dieu. Or, en fait, il s'agit de circonstances qui découlent logiquement par un certain déterminisme des conduites. Et c'est une chose à laquelle il faut bien réfléchir, que tous les actes que nous commettons sont déterminés et entraînent un certain déterminisme dans le monde où nous vivons. Si bien que la liberté n'est pas tellement facile, ni tellement réelle, il faut y penser. Il y a un exemple qui m'a toujours frappé, c'est celui d'Hérode et de Jean-Baptiste. À un moment donné, Hérode avait le choix entre écouter Jean-Baptiste et le laisser en liberté, ou bien l'éliminer comme étant trop accusateur et bouleversant son système à lui aussi. Et il a choisi d'enfermer une solution moyenne qui était d'enfermer Jean en prison. Mais du jour où Jean a été en prison, qu'il a choisi cette voie-là, à ce moment-là, une sorte de déterminisme s'instaurait qui aboutissait à la mort de Jean-Baptiste. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Autrement dit, il y a des choix qui sont irréversibles. Et le choix de Caïn est irréversible et entraîne toute une série de conséquences, en particulier la malédiction du sol. Ça veut dire le sol est déclaré mauvais. Et plutôt c'est le sol qui dit qu'il est mauvais. Tu es maudit de la terre. Autrement dit, c'est la terre qui le rejette. Parce que lui s'en est de cette façon-là qu'à se séparer d'un ordre de choses, de l'ordre de la nature, de l'ordre du cosmos. Mais le cas a encore la possibilité thérapeutique d'affirmer son existence en travaillant. Nous avons vu l'importance du travail dans le jugement, disons, dans les relations d'Adam avec Dieu. Il lui dit, tu laboureras le sol, mais il ne donnera plus sa force et tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est l'incertitude, enfin je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est une autre signification. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Caïn accepte cette nouvelle condition. Il lui dit, mon châtiment est trop grand. C'est là que nous voyons toute l'angoisse de Caïn. Et pour lui, tout changement ou toute altération à son système primitif est absolument insupportable. Il lui dit, mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. Il s'est coupé lui-même de sa relation avec Dieu, mais là nous voyons fonctionner un mécanisme bien connu, c'est la projection. Il lui dit « Tu m'as chassé ». C'est lui qui s'est coupé, mais il dit « Tu m'as chassé ». La projection fonctionne. Il dit « Je serai caché de devant ta face ». Il n'est pas dit « Je me cache », il se met sur un mode passif. Les choses sont exercées sur lui. « Je serai caché », c'est la distanciation, et c'est aussi la honte qui apparaît au niveau narcissique. Et surtout encore, il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Où est-ce que Cain a pris et que les autres pouvaient le tuer? Il n'en sait rien, c'est une hypothèse. Mais au lieu de revenir sur sa culpabilité et dire c'est moi qui ai tué, il projette l'idée de tuer, le désir de tuer sur les autres et à son tour se sent menacé. C'est la démarche classique du paranoïaque. C'est pas moi qui tue, c'est les autres qui me menacent et qui me persécutent et qui me tuent. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Cain sera puni cette fois. Et là je ne m'étendrai pas sur cet aspect-là, mais Dieu parle à Cain, un langage qu'il peut comprendre, c'est celui de la punition. Et il y a un tabou qui est posé sur Cain, il est protégé. Mais il sait aussi que cette protection sera une punition, que Dieu prend la punition en charge, et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'exercera, ni lui. C'est une façon de le libérer de cet aspect-là. Et nous voyons le signe pour que Cain ne soit pas tué. Alors nous voyons tous ces mécanismes fonctionner à partir de la dépression, de la colère, l'aspect persécutif de la culpabilité, et la protection à travers le travail et aussi à travers la fuite. Il est intéressant de voir ce qu'on pourrait appeler la structure narcissique, c'est-à-dire cet homme qui fonctionne comme étant le centre de tout. Il ne peut fonctionner que comme ça. Au niveau de la toute-puissance, c'est lui qui peut tout faire, on a vu au niveau de son métier. Ensuite, il se vit comme bon. Et toute notion qui va contredire son système devront être écartées. Nous avons vu fonctionner en lui cet aspect, il peut être bon, et idéalement bon, qu'à condition de nier la mort, à condition de déplacer son agressivité et de la projeter sur quelqu'un d'autre. Et tous ces mécanismes de défense qu'on voit fonctionner chez Cain sont des mécanismes de déguisement. Et un des intérêts, si vous voulez, de la conversion, ou quand on parle de vérité, nous lisons dans un psaume, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, c'est précisément prendre conscience de ces mécanismes de défense contre une réalité au niveau de la connaissance de soi. Et c'est une défense aussi, une interdiction de l'illusion. Aussitôt que Cain a mis d'une certaine distance, nous voyons qu'aussitôt qu'il a été rassuré quant à sa mort, nous le voyons partir au pays de Nod, c'est-à-dire au pays étranger. Il prend une certaine distance vis-à-vis de Dieu. On pourrait estimer que la meilleure solution serait de se réconcilier avec Dieu. Or, il n'accepte pas cette voie-là, il met une certaine distance le plus loin de Dieu possible. À sa suite, nous voyons comment ses descendants ont pu élaborer un système pour vivre loin de Dieu et pour faire fonctionner ses mécanismes de défense contre l'agressivité et l'angoisse. Il est impossible de vivre seul dans l'attitude de Cain. Il faut absolument construire un autre univers qui fonctionne sur un autre mode. Et nous voyons que la première chose que Cain fait, c'est de bâtir une ville, et il appelle la ville du nom de son fils, c'est-à-dire Enoch. Alors là, il y a une signification importante. D'abord, on voit qu'une certaine forme de culture apparaît comme un mécanisme de défense contre la solitude, l'abandon et la mort. La vie en société, l'organisation d'une société, apparaît comme un mécanisme de défense et le comble d'un manque. Deuxièmement, on a cette négation de la mort, il appelle la ville du nom de son fils. Autrement dit, il identifie sa descendance à ses mécanismes de défense. À la fois, ses fils vont être un mécanisme de défense, comme sa construction. Et là, nous voyons que les enfants sont considérés, aussi, peuvent être considérés comme une fabrication contre la mort. Nous voyons beaucoup de gens, enfin c'est une tendance, à surestimer la possibilité d'avoir des enfants, donc de ne pas accepter dans certains cas la stérilité. Ça a été le cas d'Abraham, ça ce serait intéressant à étudier, mais nous n'allons pas l'aborder là. Mais c'est des choses qu'on voit fréquemment. Des gens qui viennent vous voir parce que pour des raisons de stérilité, il y a un problème d'ordre physiologique bon, qui a traité à part, mais il y a un problème d'ordre psychologique. Parce que les enfants représentent plusieurs choses. Nous avons vu pour Ève, ça représentait la puissance, et pour Cain, et pour les hommes, ça représente une lutte contre la mort, un investissement, une sécurité contre la mort. On se perpétue à travers ses enfants. Et il y a une identification importante avec l'enfant lorsqu'il est mécanisme de défense contre la mort, en sorte que l'enfant perd presque son identité, il devient une sorte de membre ou de fonction des parents, et il en perd son autonomie. Il ne vit plus pour lui, les parents l'obligent, ou le père ou la mère l'obligent, à vivre d'une certaine façon pour eux, comme une continuation d'eux-mêmes. Incidemment, pour ceux qui s'intéressent à la littérature, vous avez le même processus dans Hamlet. Quand Hamlet dit « to be or not to be », ça veut dire « être ou ne pas être », il est coincé entre deux solutions, ou bien obéir au spectre, c'est-à-dire être le prolongement de son père et faire la volonté de son père, donc de ne pas être lui-même, de ne pas exister en tant que personne. Ou s'il est lui-même, il perd la relation avec son père et il perd une forme d'identité. De toute façon, il est coincé, il cesse d'exister. C'est pour ça que son sort, étant donné sa structure et la situation, est désespéré. Des deux côtés, ou bien il meurt, ou bien il perd son identité. Alors c'est contre ces espèces d'alternatives absolument inéluctables que les hommes luttent. Et nous voyons ici Cain construire une ville et l'appeler du nom de son fils, le fils ayant la même fonction que la ville, et vice-versa. Et nous voyons toute une série de gens, d'enfants, et nous voyons le système se perfectionner au niveau des mécanismes de défense, nous voyons surgir toute une civilisation. Et c'est là, dans la descendance de Cain, qu'apparaissent les arts. Nous voyons au verset 21 du chapitre 4, le nom de son frère fut Jubal, lui fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Et après, nous en avons un autre qui est forgeur de tous les outils d'airain et de fer. On peut donc considérer ces aspects de la civilisation, les arts et les métiers, comme un moyen de défense contre la solitude et une façon de remplir ce manque qui est la relation à Dieu. Il y a donc une béance qu'il faut combler et une angoisse qu'il faut tamponner. Et la culture et ses diverses formes, depuis la vie en société, les métiers et les arts, apparaissent comme un moyen de défense contre précisément l'angoisse et la mort. Et enfin, nous voyons le système de Cain et de ses descendants se perfectionner à travers une morale, mais une morale cruelle, parce que le système d'Adam tourne autour de la mort et de la violence, et Lémec, qui est un descendant, dira à ses femmes... Il y a encore une autre signification, mais je n'entrerai pas là-dedans, c'est trop hypothétique. Il dit « Je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Cain est vengé 7 fois, Lémec sera vengé 70 fois 7 fois. » C'est-à-dire que Lémec fait encore mieux que Dieu. Dieu avait établi un certain ordre pour préserver Cain à l'intérieur de sa fuite ou de son désarroi. Là, Lémec fait encore mieux, il établit un système de morale, un système éthique, qui est en surenchère et qui est basé encore sur la destruction, qui est une sorte d'élaboration, une sorte de raffinement au niveau de la destruction. Je tuerai un homme pour ma blessure, et c'est ce qui était arrivé pour Cain, il avait une blessure narcissique, il avait tué un homme pour sa blessure. Et un jeune homme pour ma meurtrissure, et si qu'un est vengé 7 fois, les mecs sera 77 fois 7 fois. Et il n'y a pas besoin d'illustration plus précise. Nous comprenons sur quel mode fonctionne notre société, qui est une société de destruction, et pour un oui, pour un non, des morts tombent. Toutes les fois qu'il y a une erreur ou une faute, ça se traduit par des morts, beaucoup de morts. La guerre, les révolutions, etc. La conclusion que j'aborderai tout de suite avant qu'une discussion, parce que je pense qu'il va y en avoir une, encore que la disposition actuelle ne s'y prête pas trop, on est un peu dispersé. D'abord, on a vu, c'est très important ça pour des parents chrétiens, le rôle de l'éducation dans le maniement de la culpabilité. On le voit dans la transmission d'un certain savoir éthique d'Ève à son fils, à ses fils, et nous le voyons dans la transmission d'un savoir ou d'une certaine conception de la vie de Cain à ses fils. L'enfant peut avoir une fonction de réparation. Autrement dit, l'enfant peut être joué cette fonction de manque. L'enfant peut être, ou enfanté, peut devenir, pour la femme, pour les parents, une véritable religion. On dit plus simplement un pansement. Jung, généralisant sur ce thème, au niveau des activités humaines, a demandé, il faut toujours se demander de quel mal du médecin le malade est le pansement. On a tous quelque chose à penser, une blessure à penser. Et on peut penser cette blessure par un métier, par une recherche, par une connaissance, par une activité, par des affections ou même par des enfants. Et on voit très bien, c'est un phénomène banal, ça a l'air de comme ça aberrant d'en parler comme ça, mais on voit très bien en consultation un enfant être le pansement d'une mère, d'une blessure qui n'a jamais été bouchée. Elle est bouchée par un enfant, par avoir un enfant. L'éducation d'un enfant, c'est une blessure. Si bien qu'on a souvent des dépressions chez les femmes, quand les enfants arrivent à maturité, de gré ou de force s'en vont. Alors vous avez une brusque dépression. On dit c'est la dépression de la ménopause. En fait, c'est moins la dépression de la ménopause, qui peut être aussi la perte d'un certain pouvoir et la prise de conscience d'une fragilité, que la perte de l'enfant qui était le pansement d'un manque. Donc, ne pas trop se servir de ses enfants quand on les a pour réparer ses blessures profondes. Et un autre enseignement de cet aspect, c'est le rôle du père dans le couple, le nom du père. Si les psychanalystes redécouvrent ça comme ça génialement maintenant, il y a longtemps que c'est dit dans la Bible, il y a quelques milliers d'années, où il est dit que, indirectement, de façon cachée, qu'il faut que le père soit là dans l'esprit de la mère étant soumise à un système d'ordre cosmique, c'est l'ordre de la création, et un homme ou une femme ne peut trouver son épanouissement que dans cet ordre-là. Donc le rôle du père doit être là, un rôle d'organisateur, et le rôle de la loi. Il est important dans le rôle de l'élaboration de la réalité psychique. Sinon, vous avez un monde d'illusions, un monde délirant. Il en établit les barrières et les limites. Un exemple simple que vous avez dans la vie courante, avec la disparition, la dissolution de la structure familiale, le père ne joue plus sa fonction et n'est pas là comme interdicteur. C'est jamais drôle d'être interdicteur. Et quand on joue ce mauvais rôle, on risque de ne pas être aimé par ses enfants. Et certains pères ont tellement peur, ont tellement besoin d'être aimés, qu'ils ne veulent jamais contrarier leurs enfants parce que pendant un bref instant, ils cessent d'être aimés. Et c'est insupportable pour eux. Alors ils ne leur interdisent rien. Mais si l'enfant ne reçoit pas d'interdiction ou de barrière, il la cherchera plus loin, jusqu'au CRS, dans les batailles de rue. Un vrai père qui tape dur, qui est solide, ou qui vous résiste. Mais à quel prix? Et c'est quand même tard. Le père, le rôle du père, aide à construire la réalité. Il faut quelqu'un qui défende, et ensuite quelqu'un qui n'est pas détruit par l'agressivité. Parce qu'un enfant vit son agressivité comme toute puissance et toute puissante et dévastatrice. Il faut donc qu'il fasse l'expérience que s'il en veut à quelqu'un ou s'il se met en colère, la personne est toujours là et elle n'est pas détruite par la colère. Parce que s'il ne fait pas cette expérience de quelqu'un d'assez solide pour lui résister, sa colère est toujours en lui et vécue comme destructrice de son objet. Et c'est absolument intenable. Elle le détruit lui-même et il ne peut jamais la manier dans ses relations sociales. Le dernier point, c'est la difficulté du repentir dans la structure narcissique. Et ça, c'est quand même une réalité qui donne à réfléchir au niveau de la prédication de l'Évangile, au niveau de la cure d'âme. Il y a des personnes qui sont particulièrement, qui ont des difficultés particulières à se repentir. Parce que se repentir, c'est revenir à un état de fragilité, un état où ils sont mis en danger et ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes. Alors je pense que là, il faut une présentation de l'Évangile ou une aide, que ce soit au niveau de la conversion ou après, de type plutôt psychothérapique, où vous avez une, comme Dieu le fait avec un, cette fois-ci il semble que, bon, je ne m'étendrai pas sur les résultats, et une psychothérapie au niveau d'une restauration de quelque chose de fragile, de quelque chose de cassé, une réparation du narcissisme. Il y a certaines périodes de la vie, surtout chez les déprimés, il faut leur montrer par des exemples ou par une relation et qu'ils sont capables de quelque chose, qu'ils valent encore quelque chose, et derrière ça, qu'ils sont aimés comme ils sont. Mais derrière cette espèce de peur de ne pas être aimé, ou d'incapacité à se repentir, il y a quand même sous-jacente et très profondément une agressivité formidable qui ne peut pas être vécue ni exprimée parce qu'elle est destructrice de son objet. Effectivement, c'est ce que nous voyons avec Cain. S'il se laisse aller, il tue. À ce sujet, c'est des choses qu'on sait maintenant, il n'y a pas plus sanguinaire et plus épouvantable qu'une colère de nouveau-né. Vous observez un petit enfant, il se met dans des colères épouvantables, il devient violet, il se tord, il crie, il hurle. Mais si sa colère est extrêmement violente, il n'a pas les moyens musculaires, ni les moyens physiques et matériels de détruire. Et pourtant, cette colère-là, quand on en trouve les traces plus tard, elle est cosmique, elle peut faire sauter le monde. Et certains schizophrènes ont ce vécu de la possibilité de détruire qui sont d'un danger pour l'extérieur. Ils gardent ça de leurs premières années. C'est des choses qui ne sont pas liquidées. Autrement dit, leur colère est plus à la dimension de leur corps. Mais malheureusement, comme cette fois ils ont des moyens matériels et ils ont la force musculaire, ils peuvent être dangereux. Un autre point, alors là, c'est, je me verrai toujours au niveau du lecteur, c'est la façon dont nous lisons ces textes-là, et instinctivement la façon dont nous apitoyons, nous identifions avec ce pauvre Cain qui souffre d'un jugement. J'exagère pas, parce que tout le monde se laisse piéger à ça. Comme en lisant le jugement sur Adam et Ève, on se laisse piéger au fait que Dieu est quand même bien méchant d'avoir dit tout ça à l'homme et d'avoir introduit, par exemple, l'enfantement dans la douleur. On préfère voir cet aspect-là. Et là, nous sommes de nouveau dans des processus d'identification et on est très fasciné par le caractère de Cain parce qu'il a tenté, lui aussi, à sa façon, d'être aussi fort que Dieu, de recréer un univers. Il a tenté de recréer un univers à lui en négation de l'ordre que Dieu avait établi dans un premier temps. Il y a eu l'échec qu'on sait avec le meurtre d'Abel, et il a eu une deuxième tentative de ses descendants dans la construction de la ville et de la civilisation. Donc c'est une voie, ce sont des mécanismes qui sont toujours fascinants pour nous en tant qu'hommes, parce qu'ils sont toujours une possibilité pour nous, une possibilité de choix, même quand on est chrétien, et nous verrons l'application de ces mécanismes plus tard sous diverses formes. Bien, je m'arrêterai là et on peut commencer la discussion.
On parlait des arts et aussi de l'enfant-pansement.
Oui.
Alors, je me demande si dans la tradition biblique ou moyenne-orientale, il n'y a pas cette tentation ou cette résolution de l'angoisse des patriarches par leur descendance, etc. Et si dans cette mentalité et au niveau symbolique, il n'y aurait pas dans la relation du Père au Christ quelque chose de...
Mais je crois que dans toutes ces questions, vous me trahissez un peu. Enfin, peut-être que je me suis mal exprimé. Ce que j'essaie de voir, c'est une fonction que peut revêtir une entreprise. Comment on peut exploiter une situation à une certaine fin. Ça ne veut pas dire que avoir des enfants ou faire de l'art, ça n'a que cette fonction-là. Mais ce serait dommage, si vous voulez, enfin, puisque c'est une réflexion de chrétien, ce serait dommage d'obturer un désir, d'obturer une fin par quelque chose qui ne nourrit pas. Et c'est un petit peu, très schématiquement, la tentation de Jésus dans le désert. Il a dit, tu as faim, bon, fais donc que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit par là qu'il ne fallait pas manger de pain. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Autrement dit, l'homme a faim, c'est une réalité, mais cette faim nous renvoie à une autre faim, qui est une faim plus profonde, qui est celle de Dieu. Et je pense que, vous pouvez dire aussi, en schématisant et en transposant au niveau de l'art, l'homme a envie de faire de l'art, d'accord, mais le besoin de l'homme n'est pas étanché par l'art, et il a un autre besoin. Et quand on a découvert à quoi servait l'art, on peut peut-être aussi répondre à ce besoin de façon plus complète et plus définitive, plus profonde, par l'annonce de l'Évangile. Alors, je réponds maintenant, je reviens à la question de Théo à propos des enfants, de l'enfant. Je pense qu'il existe de bonnes mères, il existe de mauvaises mères. Je vous donnerai un exemple. Encore là, je ne vous imposerai pas mes vues, c'est davantage un niveau hypothétique. Quand vous entendez Ève dire « J'ai acquis un homme avec l'Éternel », elle dit par là que Cain répond au désir que j'ai d'être forte, d'être comme Dieu. Elle fait intervenir l'Éternel dans son discours et par cet enfant, elle se hisse à son niveau. Et quand vous opposez au discours d'Ève le discours de Marie, quand l'ange dit à Marie tu auras un enfant. Mais dis, comment est-ce que ça peut se faire? Je ne connais pas d'homme. Elle ne se fait pas d'illusion sur la façon dont on fabrique un enfant. Autrement dit, elle est dans la lignée des gens qui tiennent compte de la réalité, alors qu'Ève ne tient pas compte de la réalité, elle la nie. Et on peut estimer, il y a d'autres indices qui nous disent que Dieu avait choisi une bonne mère pour son fils. Nous disons dans le psaume 22, « Tu m'as donné confiance dans le sein de ma mère ». Nous pouvons dire qu'elle était aussi une bonne nourrice. Nous verrons d'ailleurs dans la troisième ou quatrième séance l'importance de ces premières relations. Et je pense que là encore, vous voyez, dans ces détails, nous voyons la sollicitude de Dieu comme Père et qu'il n'a pas laissé les choses au hasard.
Vous avez beaucoup parlé de l'agressivité et de ses rapports avec les attitudes de Cain et d'Abel. Et j'aimerais savoir... D'abord, en quoi l'agressivité est-elle légitime? Est-elle quelque chose de voulu par Dieu? Et un peu la réponse psychothérapeutique et encore plus biblique, à ce qu'est l'agressivité pour un chrétien? Parce que je pense à tous les enseignements de Jésus sur la douceur, sur l'amour, sur la gentillesse. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça me provoque beaucoup de tension.
L'agressivité, c'est d'abord une réaction de défense. Elle est liée à toutes les menaces. Vous le voyez ça dans le domaine animal, quand vous traquez une bête, elle devient très méchante. Et l'agressivité apparaît toujours à partir d'une frustration. Elle apparaît très tôt, parce que la vie même d'un nourrisson n'est pas idéale, il est très rapidement frustré quant à la quantité de nourriture qu'on lui donne, à la fréquence des repas, à la qualité des soins qu'il reçoit, et il n'en a jamais assez. Autrement dit, il y a un désir béant, c'est l'apparition du désir, qui n'est jamais comblé par ce qu'il a. Et la frustration entraîne la colère. Et l'objet qui était bon quand il donnait ses soins devient mauvais quand il les refuse. La mère absente est mauvaise et la mère présente est bonne. Et l'enfant a envie de détruire ce mauvais objet. pour la bonne raison qu'au début de la vie, il y a une confusion entre l'intérieur et l'extérieur, la mère et l'enfant. Autrement dit, sa colère, la colère quand elle apparaît, la colère au niveau de la frustration, est en soi destructrice de lui-même et de l'objet, de l'objet à l'intérieur de lui. Donc il y a toujours une agressivité contre l'objet frustrant. Et la réalité, par définition, est frustrante. Et la réalité met toujours en colère, parce qu'elle n'est jamais au niveau du désir. Alors je pense qu'il est légitime, et ça fait partie de l'ordre des choses, d'éprouver l'agressivité comme le signe d'alarme d'un manque. Alors tout le problème est là, est-ce que l'agressivité doit être d'une part dangereuse et à proscrire? En fait, elle est proscrite par le sujet lui-même quand il pense, et on reprend la situation exemplaire de l'enfant à la mère, il est très en colère contre la mère absente, mais d'un autre côté, il ne peut pas détruire la mère qu'il nourrit. Et il est là devant une... C'est un petit peu détruire, manger sa tartine et puis la garder. Il ne peut pas détruire la source du plaisir, il ne peut pas détruire la source de nourriture. Il est donc obligé jusqu'à un certain point de refouler cette agressivité. Une fois qu'elle est apparue, elle n'est jamais totalement liquidée, elle est refoulée. Alors si les frustrations dépassent un certain seuil, vous avez une agressivité qui croît avec ce seuil de frustration et qui à certains moments devient intolérable. Et jusqu'à un certain point, on peut dire que l'agressivité, le degré d'agressivité reconnu et acceptable est lié aux possibilités d'éducation. Alors ça, c'est au niveau de sa genèse. Maintenant, au niveau de son fonctionnement, l'agressivité apparaît comme liée à l'instinct de conservation. C'est parce qu'on est frustré de quelque chose d'essentiel qu'on a envie de le conquérir. Or, l'agressivité a quelque chose de positif, à condition qu'elle se départisse d'une partie de son aspect destructeur, pour apparaître comme quelque chose qui pousse à la possession et à la conquête. Et vous avez ce qu'on appelle d'une part un déplacement ou des sublimations qui font qu'une certaine énergie libidinale se transforme et peut apparaître autrement. Et par ailleurs, elle garde toujours toute la vie le signe du mécontentement. Je pense qu'il est important quand on vit en société qu'on dise quand on est content et quand on n'est pas content, et qu'on le dise avec suffisamment d'exactitude pour qu'on ne mélange pas les petits mécontentements et les graves mécontentements. C'est comme ça qu'on s'ajuste les uns aux autres. Et la colère fait partie de la panoplie de l'expression dont nous disposons. Mais ce surcroît de colère peut quand même être gênant au niveau intérieur et gênant pour l'entourage. Et là, il y a peut-être un travail à faire dans le remodèlement de cette colère ou de cette agressivité.
Et là, j'aurais une question à poser sur l'agressivité. J'ai entendu des psychanalystes ou des psychothérapeutes conseiller à quelqu'un, une mère par exemple, qui déchargeait son agressivité sur son enfant, de le faire contre un coussin pour le frapper jusqu'au moment où elle n'en peut plus. Qu'est-ce que vous pensez de ce conseil? Et si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous avez un autre conseil pour le déchargement de son agressivité?
Bon, là, on est au niveau des recettes. Je pense qu'on reprendra ce problème de l'agressivité, parce que, bien sûr, il passe par tous les avatars du développement et par toutes les étapes, et il se colore de beaucoup de choses. Et effectivement, l'agressivité, même au niveau le plus infantile, est toujours lié au plaisir. Et comme il est fonction de quelque chose, il est fonction de l'être, il donne aussi beaucoup de plaisir. Parce que dès le début de la vie, il y a les fonctions de nutrition, les besoins qui s'étayent sur le plaisir qu'on en retire. Et toutes les activités ont une part de réalité, une part fonctionnelle et une part de plaisir. Et la colère a aussi cette part de plaisir. Et c'est dans la mesure où on a eu trop de plaisir par ce moyen-là qu'on risque de le garder comme instrument favori de son expression. Et de plus, comme c'est lié au plaisir, on y tient beaucoup, et c'est d'autant plus culpabilisé. Et c'est d'autant plus difficile à manier et à maîtriser. Alors pour ce qui est de décharger la colère, je pense qu'effectivement, un certain nombre d'activités normales sont proposé à le déchargement de la colère, mais transformé sous forme d'activité. Je pense que l'agressivité intervient dans le travail, dans la conquête, dans l'amour, dans la conquête du partenaire, dans l'accession à une situation, dans la maîtrise des objets, dans la fabrication des choses, dans tout ce qui est avancement et épanouissement. Enfin, ça, c'est une façon de maîtriser l'environnement. Mais ça, c'est de l'agressivité et qui est investie dans un bon sens.
Et comment expliquez-vous que dans la Bible, Dieu se mette en colère ?
On a vu tout à l'heure que, enfin, on a lié dans une première hypothèse l'agressivité à la frustration. Autrement dit, c'est d'une part à la frustration et ensuite au moyen d'expression. La colère étant la forme expressive de l'agressivité, de certaines formes d'agressivité. Si l'agressivité est culpabilisée, c'est parce qu'elle apparaît au sujet comme destructrice. Mais elle lui apparaît comme ça, et elle peut l'être. Et dans la mesure où l'agressivité ou la colère, qui en est le signe, se rattache à la frustration, nous pouvons quand même penser que Dieu a été assez frustré dans sa créature quand elle s'est détournée de lui, et toutes les fois qu'elle se détourne de lui. Et je pense qu'il y a lieu de faire la différence, on pourra en parler plus longtemps, entre la colère et la violence. Dans la colère, c'est l'expression d'un mécontentement profond. Dans la violence, il y a quelque chose en plus, il y a le plaisir. Je ne voudrais pas revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit, qui va nous écarter du sujet, mais qui est quand même intéressante, c'est l'histoire des fils de Jacob. Vous savez que les fils de Jacob avaient une sœur très belle qui s'appelait Dina. Georges vous dira dans où c'est.
C'est Genèse 36.
Genèse 36. Et on peut tout de suite prendre les bénédictions à la fin du livre, les bénédictions de Jacob qui se rattachent à ça. Alors voilà schématiquement l'histoire. Jacob avait une jolie fille qui s'appelait Dina. Cette fille était consanguine de Judas, de Lévi, de Rubin. Et comme toutes les filles curieuses et belles, elle a été faire se promener aux environs de Sichem pour voir les filles du pays. Et non seulement elle a vu les filles du pays, mais elle a vu aussi les gars du pays. En sorte que le fils de Sichem, Hamor, s'est épris d'elle, et lui, il est passé tout de suite à l'acte, et il a couché avec la fille. On ne sait pas s'il l'a violée ou pas, enfin on a estimé qu'il l'avait violée. Mais enfin, elle s'en est pas tellement plainte. Et quand elle est revenue à la maison paternelle, tout le monde a été indigné. Et les premiers indignés, c'est ses frères consanguins. Les autres, ils ont pris ça en patience. Et quand Jacob l'a appris, il a attendu que ses fils reviennent, et puis on en a discuté en famille. Et on voit que les gens qui ont eu l'indignation la plus coriace et l'agressivité la plus grande, c'était les frères consanguins. Or, justement, il s'avère que ce sont les seuls qui n'avaient pas le droit de toucher à cette fille de par les lois de l'inceste. Tous les autres qui étaient des demi-frères pouvaient à la rigueur se marier avec elle. C'est ce que nous voyons dans les fils de David avec Tamar, Absalom et Amon. Donc, les frères consanguins ont été les plus ardents à défendre la vertu de leur sœur offensée, et ils ont dit, ils vont aller parler à la ville, et ils montent un stratagème, comme Hamor était très amoureux de cette fille-là, ils ont dit, écoutez, il a dit à son père, va la demander en mariage, elle me plaît, et alors on dit, les parents se rencontrent, et disent, on va faire une alliance, le pays sera à vous, la ville sera à vous, on va faire un seul peuple. Alors les fils de Jacob disent, oui, d'accord, mais nous on est circoncis, il faut que vous soyez circoncis aussi. Enfin, vous connaissez l'histoire. Alors, il l'aime tellement qu'en plus il est prince, et il ordonne à tous les mâles d'être circoncis. Alors, effectivement, dans les 48 heures qui suivent, les hommes n'étaient pas très à l'aise. Et les fils de Jacob montent, et puis ils liquident tous les hommes. Ils tuent tout le monde. Et ils prennent le bétail, ils pillent la ville. Et Jacob, évidemment, ça avait un effet politique immédiat, il n'était pas du tout tranquille de cette affaire-là, qui pouvait lui attirer des représailles. Mais il y avait un autre aspect que nous trouvons dans les bénédictions à la fin. Ça vaut la peine d'être lu. C'est au chapitre 49, au verset 5. J'ouvre tout de suite une parenthèse. Parmi les vengeurs de l'honneur de la fille, il y aurait pu y avoir Rubin. Mais Rubin n'était pas un inceste près. Lui, ce n'était pas un problème qui l'intéressait beaucoup, puisque il s'était déjà donné du plaisir avec une des femmes de son père. C'est pour ça qu'il a perdu son droit d'aînesse.
C'est Genèse 49.
Alors, donc, Rubin n'était pas de l'opération. Par contre, Siméon et Lévi y étaient. Alors, il dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives ont été des instruments de violence et pas de colère. Mon âme n'entre pas dans leurs conseils secrets. Ma gloire ne t'unit pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et pour leur plaisir, ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Autrement dit, le père Jacob n'est pas dupe de ce type de justice. Il sait très bien qu'il y a peut-être un aspect de la justice. Il dit, faudra-t-il traiter notre sœur comme une prostituée? Bien sûr. Mais par contre, dans l'exécution de cette vengeance, il voit très bien ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a d'injuste, ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de passionnel. Il n'analyse pas ça, il n'est pas psychanalyste, l'agressivité refoulée et les interdictions de toucher à la fille, l'interdiction de l'inceste, et qui fait qu'ils sont d'une violence particulière vis-à-vis de gens qui font ce qu'eux n'avaient pas le droit de faire et inconsciemment avaient eu envie de faire. Et en plus, ils y ont pris du plaisir. Et ça, cet aspect très important dans l'Ancien Testament, que Dieu demande charge quelquefois son peuple ou ses serviteurs d'accomplir sa justice, mais il ne leur demande pas en plus d'y prendre du plaisir. Et dans tout le Nouveau Testament, vous voyez que la violence apporte beaucoup de plaisir à ceux qui l'exercent. Et c'est pour ça aussi que dans le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu a renoncé à donner à l'homme une allure, un rôle de justicier. Parce qu'il ne peut pas exercer la justice comme lui l'exerce, c'est-à-dire sans prendre plaisir. Il est dit que c'est pour Dieu, c'est la justice, c'est un travail particulier, inhabituel. Et il n'aime pas détruire sa créature. Nous en voyons de nombreux exemples, ne serait-ce qu'à la fin du livre de Jonas. Donc c'est pour ça, pour cette raison, que l'homme est incapable d'exercer la justice, que dans l'économie chrétienne, il nous est dit de ne pas juger, de ne pas exercer cette justice. Et dans l'évangile de Jean, nous avons « Je ne vous juge pas moi-même, le Père ne vous juge pas, la parole que je vous dis vous jugera au dernier jour. » L'exercice de la justice est réservé à Dieu parce que lui est seul capable de le faire de façon équitable. »